Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se dispute, toujours en direct bien sûr sur CNews, toujours un face-à-face avec ce soir Geoffroy Lejeune, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Et bienvenue Philippe Guibert, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Bienvenue également pour évoquer avec vous notamment l'islamisme principale menace en France, une nouvelle manifestation pro-Palestine demain à Paris, la définition de génocide et le voyage polémique d'Anne Hidalgo à Tahiti. Mais d'abord, ce sondage CSA pour CNews, dans lequel 78% des Français estiment que l'islamisme constitue une menace pour la France, est très équilibré entre le point de vue des hommes et celui des femmes. Il faut dire que ça fait notamment écho à l'assassinat du professeur Dominique Bernard. La France est donc sur ses gardes. Les Français sont inquiets. Ont-ils raison d'être inquiets, Geoffroy Lejeune ?
En fait, ils ont raison d'être inquiets, d'autant plus que si on décortique ce sondage, on voit qu'il y a au sein de l'électorat de la France insoumise une majorité de gens qui considèrent que l'islamisme n'est pas une menace pour la France. 54% d'entre eux qui considèrent que ce n'est pas une menace. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut vouloir dire qu'ils n'ont pas de problème avec ce qu'on voit en ce moment, ils n'ont pas de problème avec les manifs, ils assimilent le soutien à la Palestine, à l'islamisme, et dans un amalgame un peu, un gloubi-goulga pardon, intellectuel. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut aussi vouloir dire, quand on sait que 69% des musulmans qui ont voté en 2022 au premier tour de la présidentielle, qui ont voté, je savais que j'allais me faire reprendre là-dessus, donc je préfère être précis dès le début, bravo Philippe, 69% des Français, des Français musulmans qui ont voté, qui ont voté en 2022, ont voté au premier tour pour Mélenchon, ça peut aussi vouloir dire, ces 54%, que c'est l'émergence d'un peuple qui dont le projet, un peuple islamiste en réalité, qui veut, ou islamo-gauchiste, vous l'appelez comme vous voulez, qui veut changer la France ou la remplacer. Et ça peut vouloir dire ça, c'est le début de quelque chose, mais quand on voit que le score de Mélenchon est à deux doigts de la qualification au second tour et qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans un second tour parce qu'on ne connaît pas son adversaire, etc. Oui, c'est inquiétant en fait, en réalité. Moi, ça m'inquiète beaucoup.
Alors, la question aussi, la photographie Philippe Guibert que donne ce sondage, c'est essayer de répondre à cette question sur le long terme. Est-ce que véritablement l'islamisme est le danger principal de la France, devant l'insécurité, devant l'inflation, devant tous les problèmes du quotidien, avant que le professeur Bernard ne soit assassiné, avant que le conflit entre le Hamas et Israël ne soit déclenché, notamment.
La question ne permet pas de répondre à votre question, parce que c'est une menace. Et je suis un peu étonné qu'il y ait 22% de Français qui considèrent que ce n'est pas une menace. Est-ce que c'est la menace principale ? Moi, je considère que les trafics de drogue sont extrêmement dangereux pour la société française, ou qu'il y a d'autres dangers pour la société française. Mais incontestablement, l'islamisme est une menace. Et je reste. Alors, une de vos explications, c'est effectivement l'électorat de la France insoumise. Il ne faudrait pas... Je crois, pour vous répondre, il ne faudrait pas penser que l'électorat mélenchoniste de premier tour, ces fameux 22%, sont constitués que de musulmans.
Non, pas que, c'est vrai.
Il y aurait une illusion d'optique complète.
Je suis d'accord.
Parce que l'abstention a été plus forte chez les musulmans que dans les autres catégories de la population, de manière générale dans les quartiers.
Oui.
Ça
veut dire réserve de voix.
Ou ça veut dire des personnes qui n'ont pas envie de se mêler à la vie politique française, ce qui est un autre problème.
Ouais, bien sûr.
Ce qui témoigne d'un manque d'intégration républicaine, évident, mais c'est un autre problème. Et donc il ne faudrait pas considérer que les 22% de Mélenchon, c'est un peuple islamiste. C'est pour moitié la base habituelle de la gauche radicale, et c'est pour une autre moitié des gens qui ont voté utile, des gens de gauche qui ont voté utile, qui auraient peut-être préféré voter pour un autre candidat, mais qu'on votait Mélenchon parce qu'il se disait il peut être au deuxième tour et ça nous fera un candidat de gauche au deuxième tour et ça nous évitera d'avoir à choisir entre Le Pen et Macron. C'est comme ça que ça s'est passé.
Il y a une troisième moitié, dans ce cas-là, c'est les musulmans. Enfin, excusez-moi.
Non, parce que je pense que ça représente quelques pourcents.
Bah, 69% d'entre eux.
Oui, mais enfin, on ne va pas faire des calculs savants, mais sur 6 millions de musulmans, en admettant qu'il y en ait 5 millions d'inscrits et qu'ils soient français inscrits sur les listes électorales, et si on fait une moitié d'abstention, ce qui ne doit pas être très très loin de la vérité, c'est quelques pourcents du score de Mélenchon par rapport aux 22%. C'est 3%, 4%. C'est pas
3 points.
Oui, 3 points. Ouais, 3 points parmi ces 22 points. Mmh. On est bien d'accord. Donc, je ne crois pas qu'il faut analyser. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus que ça, c'est le fait que la gauche s'est complètement atrophiée, que l'autre gauche, que celle de Jean-Luc Mélenchon, que jadis on appelait la gauche du gouvernement, la gauche républicaine, peine beaucoup à se faire entendre et n'oppose pas un contre-discours ou un discours différent par rapport à Mélenchon. D'autant plus qu'à gauche, on s'affole beaucoup sur le Rassemblement national, l'extrême droite, etc., etc. Mais enfin, le meilleur agent électoral de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est devenu Monsieur Mélenchon. Et donc, je trouve que la gauche, jadis républicaine, enfin la gauche socialiste, la gauche même écologiste, en partie, devrait construire un contre-discours, en particulier sur l'islamisme, qui est notre sujet. Jean-Luc Mélenchon a fait le choix depuis 4-5 ans de ne pas parler de l'islamisme. L'islamisme n'est pas un problème, ou d'assimiler ou d'amalgamer tous les musulmans avec l'islamisme.
Par rapport à ce que vous retenez par rapport à ce sondage, c'est votre point de vue évidemment, et il se respecte, et on est là pour en débattre, c'est avant tout le calcul politique, la stratégie politique notamment, c'est ce que vous retenez dans ce sondage. Mais la question qui est posée, et c'est ça qui est peut-être le plus effrayant, c'est est-ce que l'islamisme est une menace les Français, pour la population française? Et la population pense que oui, majoritairement, à 78%. Et les politiques également, en tout cas les politiques, notamment le gouvernement. Écoutez Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, qui était l'invité de CNews ce matin.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne soit pas à 100% à répondre que l'islamisme, c'est une menace pour notre pays, sans jamais confondre l'islam et le droit de pratiquer une religion. C'est le cas de la laïcité et de l'islamisme, qui est un projet politique et un projet évidemment menaçant pour notre pays. Tous ceux qui ont péri des attentats islamistes sont là ou ne sont plus là malheureusement pour pouvoir en témoigner et donc sont évidemment la preuve que l'islamisme est une menace.
L'islamisme est une menace, mais les Français ne le découvrent pas. Tout de même, à travers ce sondage, effectivement, il y a un contexte, Geoffroy Lejeune, et ça répond peut-être à certaines questions, et voilà pourquoi on est à 78%. Mais cette menace, les Français ne découvrent pas. L'islamisme est installé depuis longtemps en France. Et peut-être d'ailleurs que le gouvernement n'a pas fait suffisamment pour le chasser.
En fait, l'islamisme, pourquoi les Français sont au courant, pourquoi le sondage est aussi accablant, c'est que les Français connaissent la traduction la plus véhémente de l'islamisme, c'est le terrorisme en réalité. Et depuis 2012, on vit avec, c'est-à-dire qu'on a Mohamed Merah, on a 2015 Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, et on a encore régulièrement des attentats moins spectaculaires, mais qui existent quand même. Samuel Paty, une décapitation, enfin, pardonnez-moi, mais c'est quand même, c'était jamais arrivé. Dominique Bernard, etc. Donc que les Français le conçoivent, tant mieux. En fait, si les Français ne répondaient pas, entre guillemets, comme ça à ce sondage, ce serait hyper inquiétant. Et pour le coup, ça nous met d'accord. Pourtant, on a beaucoup de différends avec Philippe, mais on est vraiment d'accord là-dessus et à zéro sujet. Moi, maintenant, je pense que comme la vraie menace, je ne veux pas donner l'impression de faire de la politique politicienne, mais le sujet de Mélenchon, ce n'est pas de dire que Mélenchon est un affreux bonhomme, qu'il est très dangereux, etc. C'est que je pense que Philippe disait, j'ai beaucoup de tendresse pour ce discours aujourd'hui parce que en réalité, je pense que je sais que vous êtes sincère et je pense que vous rêveriez, vous, Julien Drey, tous les gens de gauche que je fréquente à CNews ou ailleurs, qu'une autre gauche puisse faire entendre son discours, reprendre les électeurs et marginaliser ce mouvement qui est extrêmement inquiétant. On voit bien en ce moment dans les réactions, le refus de qualifier le Hamas de groupe terroriste, etc., qu'il y a quelque chose qui a changé. Je pense malheureusement que très cyniquement, Mélenchon a fait le bon calcul. Et il a fait le bon calcul politiquement pour des raisons cyniques, évidemment, électoralistes et en fait démographiques en réalité. C'est-à-dire que c'est pour ça que la discussion qu'on avait juste avant sur les 69% de musulmans ayant participé au vote qui ont voté pour lui, il n'est pas anecdotique ce calcul électoral. Mélenchon est un type intelligent qui connaît les mouvements de l'histoire, qui connaît les rapports de force et notamment qui sait que la démographie joue un rôle important. Et qu'est-ce que l'islamisme, en fait, c'est Le syllogisme qui permet d'expliquer tout ça, c'est l'immigration a importé l'islam, l'islam a importé une partie d'islamisme, et l'islamisme a donné parfois du terrorisme. Si vous réfutez cette équation-là, ce qui est le cas de beaucoup de gens dans le débat public, vous comprenez pas qu'il y a un lien entre l'un et l'autre. Mélenchon comprend très bien qu'il y a un lien entre l'un et l'autre, et il se dit aujourd'hui, je vais excuser du terrorisme en Israël parce que je veux garder l'immigration en France. En fait, donc c'est le chemin inverse en réalité, mais c'est pour ça qu'il est aussi peu clair dans ses condamnations. D'ailleurs, il n'y a pas de condamnation. Enfin, il y a une condamnation très légère. Et en réalité, c'est un calcul. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne le fait pas purement par hasard. Ce n'est pas une vue de l'esprit intellectuel. Il sait qu'il y a un électorat pour ça. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, l'islamisme, c'est évidemment la menace qui est gérée par nos services de renseignement, la police, Vigipirates, enfin, Sentinelle, tout ce que vous voulez. Mais c'est surtout une menace démographique d'un contre-peuple qui s'installe et qui veut changer des choses.
Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est sans doute une stratégie alors qui sera peut-être payante ou pas, ce sera peut-être l'arroseur arrosé, mais dans un autre sondage, Philippe Guibert, pour beaucoup de Français, pour une grande majorité, 7 Français sur 10 considèrent que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République.
Oui. Je peux me ranger dans ces, oui. Non, dans mais ces Français-là.
C'est pas avec des sondages comme ceux-là qui va être élu, non, ou qui va gagner des élections.
C'est pour ça que moi je n'en serais ce que disait Geoffroy, parce que on voit bien sur tous les sondages, il s'installe dans une position très minoritaire.
Je suis d'accord.
Avec une opposition très majoritaire et très forte. Il est devenu le personnage repoussoir de la vie politique française. Il a pris le rôle de Jean-Marie Le Pen il y a 20 ans, hein, ou 30 ans. Et donc, il s'installe dans une position où il peut avoir une base forte, mais où il ne peut pas en faire plus. Et donc, je ne crois pas que sa stratégie soit gagnante. Je pense qu'elle est perdante. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui se construit à côté, comme on peut le redouter. Il peut garder sa position de leadership à gauche, quitte à ce que la gauche se rétrécisse. Je reviens sur l'islamisme et l'islam. Toutes les enquêtes montrent, et toute la connaissance qu'on peut avoir du monde arabo-musulman, est que, d'abord, il y a plusieurs islamismes. Il y a l'islamisme chiite, celui du régime des Mollahs. Il y a l'islamisme wahhabite, qui donne le salafisme, qui s'est diffusé dans tout le Maghreb, dans une bonne partie du monde arabe, et qui est arrivé chez nous. Et puis, il y a l'islamisme des frères musulmans. C'est pas le même. Ils s'aiment pas beaucoup. Mais ils vont dans le même sens, c'est-à-dire dans le rejet de nos sociétés occidentales et de ces valeurs. Ce qui est redoutable, et ce qui est le défi pour nous, pour tous les républicains, c'est de se dire, il y a une jeunesse d'origine immigrée, qui peut être dans la culture musulmane, et dont on constate dans toutes les études qu'elle est plus rigoriste, qu'elle est plus proche de l'islamisme que les parents ou les grands-parents. Et donc on a une évolution dans la population de culture musulmane qui fait que le rajeunissement peut amener à des positions plus rigoristes, plus islamistes. Et donc je trouve que c'est ça le grand défi pour la société française, parce que oui, c'est une menace. C'est une menace de contre-société. C'est une menace pour les gens qui le subissent, les femmes en particulier, les homosexuels en particulier, pour les juifs qui se trouveraient à proximité. Et on sait qu'il y a eu des départs de populations juives dans un centre de quartier depuis 20 ans qui est très impressionnant. Donc il y a ceux qui le subissent. Et puis il y a la menace pour la société française et la difficulté, la plus grande difficulté encore à intégrer cette génération qui est plus marquée par l'intégrisme, par l'islamisme, par le rigorisme.
Est-ce que vous rejoignez Éric Zemmour quand il a dit sur notre antenne il y a quelques jours, non mais je vous pose la question, elle n'est pas du tout provocante parce que je vous écoute très attentivement, vos propos sont intéressants, mais Éric Zemmour a dit que l'islam n'était pas compatible avec la France. Et la description que vous faites, Philippe Guibert, de cette jeunesse musulmane ressemble à ses propos.
Alors moi je ne suis pas théologien et Éric Zemmour non plus à ma connaissance, mais il a beaucoup de qualités. Je ne sais pas ce que c'est que l'essence de l'islam. Et donc, quand on regarde un peu l'histoire, quand on lit un peu l'histoire des civilisations islamiques, il y a eu des pratiques et des interprétations divergentes. Aujourd'hui, incontestablement, l'islamisme dans le monde arabe ou musulman a l'hégémonie culturelle, comme on dit, a l'hégémonie idéologique. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont islamistes, loin de là,
oui.
Mais ça veut dire que c'est le discours qui est le plus dominant. Et donc, la question n'est pas de savoir si l'islam est compatible avec la République. Une personne, les grands-parents des jeunes dont on parle aujourd'hui, qui ne voulaient pas manger de porc et pas trop d'alcool, et qui faisaient ramadan une fois par an en allant à la prière aussi une fois par semaine, c'est parfaitement compatible avec la République. Il n'y a même pas de discussion. Le problème, c'est quand l'islamisme, ce rigorisme, veut que la société devienne musulmane et que le quartier devienne musulman et soit sous l'emprise de cette doctrine. Et là, c'est beaucoup plus problématique avec la République.
Et il y a, Geoffroy Lejeune aussi, une confusion qui est faite très régulièrement entre islam et islamisme. C'est-à-dire que le rapprochement se fait systématiquement dans l'esprit de beaucoup, alors que c'est clivant. Ça oppose véritablement toutes les idéologies et les pensées.
Alors, je suis d'accord ni avec vous, Lionel, ni avec Philippe. Je suis désolé.
Très bien, mais allez-y. Vous êtes là pour vous exprimer.
Ça se dispute. On va se disputer un peu. Non, mais je pense que je vais répondre d'abord à Philippe. Enfin, Philippe confond deux débats. La question n'est pas, et d'ailleurs en fait tous les deux, je pense que la question n'est pas de différencier l'islam et l'islamisme, c'est de différencier l'islam et les musulmans. C'est-à-dire que les musulmans, et c'est ce que disait Philippe, en fait, mais avec les mauvais termes selon moi, les musulmans font ce qu'ils veulent, ce sont des gens libres. Mm-hmm. Il y en a certains qui vivent en France, qui souhaitent vivre en France, qui adaptent leur mode de vie à la France, et de fait, la majorité des musulmans ne posent pas de problème ni à la France, ni à la République, ni à la loi, ni à rien du tout.
On est d'accord.
On est d'accord là-dessus. C'est ce que tu disais.
C'est important de le dire aussi.
Mais c'est important de le dire aussi. C'est important pour eux. C'est important pour les y encourager parce que certains subissent des pressions énormes.
Dans des positions très inconfortables.
Et voilà. Et pire que nous. Enfin, je veux dire, voilà. Je suis d'accord. Évidemment. Et les musulmans peuvent vivre comme ça. Il y a des musulmans qui ne vivent pas comme ça. Et l'islam, en revanche, c'est pas une communauté de gens. Et comment réduire l'essence de l'islam, c'est la question que posait Philippe, ce sont des textes, c'est une religion du livre, c'est le Coran, les hadiths. Et je suis désolé parce que si on doit parler de la question de l'imam de Beaucaire qui est très intéressante, je vais anticiper un peu sur le débat qu'on aura tout à l'heure, mais l'islam ce sont des textes, c'est le Coran, les hadiths, et la République française, un tribunal français vient de condamner un hadith. Vous avez vu, le hadith qui a été cité sur Facebook par cet imam a été condamné en tant que tel, peu importe quelles aient été les explications, etc., données par l'imam. C'est un hadith qui vise les juifs et qui vise à tuer des mécréants. Et ce hadith a été condamné pour apologie du terrorisme. Ce qui veut donc dire que le lien entre islam et islamisme, parce qu'un hadith, c'est l'islam, c'est pas l'islamisme. Le lien entre, même s'il peut être interprété, etc., non, c'est une question d'interprétation. La phrase existe, prononcée par un proche du prophète, etc. Le lien entre islam et islamisme vient d'être établi par un tribunal français. Et je sais pas ce qu'ils vont faire de cette information, je sais pas comment on va gérer, mais... Oui. En 1990, le RPR, alors réuni en états généraux à Villepinte, sur les questions de l'immigration, de l'islam, etc., avait publié un texte en disant « L'islam n'est pas compatible avec nos lois ». Je pense qu'ils avaient raison. L'islam, encore une fois, pas les musulmans. L'islam, je pense que le tribunal qui a jugé l'imam de Beaucaire vient de prouver la même chose.
Sans doute parce que les islamistes utilisent l'islam et les textes à dessein, en effet. Et ce sont souvent les musulmans qui payent les pots cassés, qui en font les frais. Je vous cède la parole, mais juste cette phrase qui va peut-être vous faire réfléchir ou qui va vous apporter de l'eau à votre moulin, Philippe Guibert, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui s'inquiète de la libération, je le cite, progressive d'une parole raciste et haineuse contre les musulmans de France. Cela veut dire qu'il y a de l'antisémitisme, mais selon lui, il y a aussi la volonté de se retourner contre les musulmans en France.
S'il le dit, c'est qu'il doit avoir des éléments tangibles pour le dire. C'est pas ce que j'ai remarqué le plus dans la société française. Ces dernières semaines, j'ai plutôt remarqué une montée de l'antisémitisme. Mais je suis pas en train de faire de la concurrence entre les victimes.
Bien sûr,
s'il y a des actes, il faut surtout pas en faire d'ailleurs. Et s'il y a des actes anti-musulmans, il faut les... j'ai vu qu'une mosquée avait reçu un courrier de menace. C'est parfaitement scandaleux. Il faut le dénoncer très fermement. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais je voulais revenir sur le point de Geoffroy. Ce qui est très compliqué avec la religion musulmane, c'est que contrairement à la religion chrétienne, catholique en particulier, il n'y a pas de Vatican musulman. Il n'y a pas de Vatican de l'islam qui te donne la doctrine.
Je suis d'accord.
Et donc, chaque imam peut interpréter ou avoir une liberté d'interprétation par rapport au hadith ou par rapport au Coran, qui fait que les pratiques de l'islam ont été très différentes. Tu parles de ce hadith qui est antisémite, il y en a. C'est incontestable dans les textes.
Bien sûr.
Et en même temps, il y a eu des périodes de la civilisation islamique où les juifs, parfois... je pense en particulier après leur expulsion d'Espagne, se trouvaient parfois plus tranquilles au Maroc que dans des pays catholiques qui étaient à ce moment-là très antisémites.
Toujours minoritaires.
Toujours minoritaires et toujours avec un statut de dhimmi.
De dhimmi, bien sûr. Bah ouais,
mais ils n'étaient pas persécutés.
Non, bien sûr.
Donc tout ça est très compliqué parce qu'il y a une historicité, il y a une histoire dans l'évolution de l'islam et qu'incontestablement aujourd'hui, il y a une régression doctrinal et idéologique avec des gens qui veulent revenir au littéral de la, du Coran et des hadiths, qui ne veulent absolument pas prendre de distance avec les textes et de ne pas du tout s'adapter au monde moderne. Et là, évidemment, il y a un problème, et il y a un problème avec la République française.
Et cela crée aussi des vases communicants avec l'actualité, celle que l'on va vivre aussi demain, puisqu'il y a eu la tenue d'un rassemblement pro-palestinien qui a été autorisé à Paris hier, et une très grande manifestation qui va avoir lieu demain. Ce sera une journée nationale de manifestation avec ce message unitaire, halte au massacre à Gaza, un cessez-le-feu à Gaza, c'est ce qui est réclamé. Ça devrait rassembler beaucoup d'organisations, notamment de partis de gauche, pour réclamer ce cessez-le-feu. Mais il y a peut-être un intitulé qui a été oublié au sein de la justification de cette manifestation qui sera autorisée demain. Et c'est Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui l'a soulevé. Écoutez.
Il ne manque pas des choses ? Il n'y a rien qui vous choque ?
Allez-y, je vous laisse.
Je sais pas, il y a des centaines d'otages et des enfants, des femmes, des vieillards qui sont actuellement des otages israéliens dans les mains des terroristes à Gaza. Ils en parlent dans leur mot d'ordre ? C'est-à-dire qu'on manifeste pour la paix, pour la survie du peuple palestinien, ce qui est tout à fait légitime, mais on omet ou on oublie ou on veut omettre le principe selon lequel on soutient aussi la vie des otages et des familles qui attendent de retrouver les leurs.
Alors pour être très précis,
De ce que vous lisez.
Attendez, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts ont, eux, dans leur communication, évoqué et demandé la libération des otages. Mais c'est vrai que dans cet appel n'est pas fait mention de la
Donc
question des otages.
Ça,
c'est vrai.
On a l'indignité sélective.
Oui, car en effet, la manifestation pro-Palestine, encore une fois, Geoffroy Lejeune, qui aura lieu demain à Paris, dans la capitale, c'est un appel au cessez-le-feu, mais par rapport au, et on va en parler après 21h30, de ce que certains appellent le génocide de Gaza. Mais pas un mot, en effet, pour les otages et pour les victimes israéliennes.
Honnêtement, il a raison, Véran. Ça ne m'est pas beaucoup arrivé de le dire, mais il a raison sur ce sujet-là. Je fais le lien avec la déclaration précédente du recteur de la Grande Mosquée de Paris. Je trouve que c'est indigne, dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, avec, en effet, l'explosion des actes antisémites, et avec l'historique aussi. Quand vous faites la comparaison des actes anti-chrétiens, antisémites et anti-musulmans, les actes anti-musulmans ne sont pas nombreux du tout et ce n'est pas du tout le haut du classement. Il y a plus d'actes anti-chrétiens, par exemple. On n'en parle pas beaucoup. Donc, il y a une tentative de victimisation dans un contexte où des manifestations, on entend dans des manifestations à la Wakbar, mort aux juifs, enfin je ne vous refais pas le film, que je trouve assez indigne. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, par ailleurs, présenté comme un monsieur très modéré, qui a fait un appel en disant on ne peut pas être musulman et ne pas aimer les juifs, c'est catastrophique, et qui a été obligé de se reprendre ensuite en communiquant quelque chose à destination de sa communauté, enfin de l'Ouma qui vit en France, de la communauté qui vit en France. Il y a quelque chose qui me gêne terriblement en réalité. Je vais vous dire la vérité. Personne n'est clair. Les seuls qui sont clairs vivent sous protection policière. Ça devrait nous interroger.
Cette manifestation, elle revêt un caractère d'urgence, selon vous ? Elle est autorisée, mais cette fois-ci, pas pour défendre la cause palestinienne. Enfin, c'est ce qui, en tout cas ce qui est indiqué. Revendiquer l'État palestinien. Pour un cessez-le-feu.
Ce ne sont pas les mêmes qui organisent la manifestation.
Mais ce seront les mêmes qui vont y participer, peut-être.
Je ne sais pas. Libertés. On verra demain. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement les mêmes.
C'est intéressant, pardon, Philippe, de te couper, mais de souligner qu'il y a plus de gens dans les manifestations interdites qu'autorisées.
Ce qui veut dire que. Je ne sais pas si, en tout cas, il n'y avait pas forcément urgence, parce qu'il y a eu plusieurs manifestations. Et d'organiser une manifestation tous les trois jours, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais je ne suis pas partie prenante. Là, le Parti socialiste, le Parti communiste, les écologistes s'associent à cette manifestation et sont organisateurs. On peut donc espérer que les slogans, que ce qu'on entend dans cette manifestation soient mieux contrôlés et qu'il n'y ait pas de dérapage. Infiniment regrettable auquel, comme on a pu y assister dans les précédentes manifs. Après, sur le fond, d'une part, je suis d'accord sur le... C'est révélateur que le PS, le PC, les écologistes parlent des otages et que les autres, LFI et d'autres, n'en parlent pas. C'est déjà une première, un premier coin qui est enfoncé. Je ne suis pas sûr que le cessez-le-feu soit le meilleur slogan. Non seulement parce qu'il y a des otages, enfin parce qu'il faudrait quand même rappeler que c'est Israël qui a été agressé, enfin aux dernières nouvelles. Hein, c'est Israël qui a été agressé, qui a connu pas loin de 1500 morts dans des conditions atroces. Et donc de demander un cessez-le-feu, c'est d'une certaine manière dire Bah oui, donc on va, le Hamas peut continuer à fonctionner comme ça. Et c'est pas acceptable pour un pays, quel qu'il soit, et pour Israël en l'occurrence, qu'une organisation terroriste vive à quelques kilomètres de chez eux et puisse tuer des gens. Donc, je trouve pas que le slogan soit le meilleur. Je trouve que les trêves humanitaires, ça se défend tout à fait. Ça me paraît indispensable dans toute guerre. Le cessez-le-feu, je trouve très ambigu.
On marque une pause, on se retrouve dans Ça se dispute avec Philippe Guibert, avec Geoffroy Lejeune dans quelques instants, le flash, et on revient encore une fois à nos thématiques et on continue à se disputer bien sûr, avec élégance. A tout de suite.
C'est bon.
Philippe Guibert et Geoffroy Lejeune se disputent ce soir sur CNews, mais dans quelques instants, juste après le point sur l'actualité de Mickaël Dos Santos. Bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Hassan Nasrallah n'écarte pas l'hypothèse d'une guerre totale. Lors d'une prise de parole très attendue, le chef du Hezbollah libanais a révélé que cette option était sur la table en cas d'opération préventive ou d'attaque de l'armée israélienne. Le mouvement ne doit pas chercher à profiter du conflit entre Israël et le Hamas, ont mis en garde les États-Unis. Israël refuse toute pause humanitaire à Gaza. Benjamin Netanyahou a écarté cette possibilité sans une libération des otages détenus par le Hamas. Ce vendredi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait tenté de le convaincre lors d'une visite officielle. De son côté, Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'une conférence humanitaire le 9 novembre prochain à Paris. Enfin, certaines familles des 240 otages ont manifesté à Tel Aviv. Elles étaient réunies pour réclamer le retour immédiat de leurs proches. Pour le moment, la situation est bloquée. Le Hamas exige la libération des prisonniers palestiniens. Les autorités israéliennes refusent, elles. Elles craignent que ces terroristes ne deviennent dangereux.
Merci Mickaël Dos Santos. Prochain point sur l'actualité à 22h en direct, toujours sur CNews bien sûr. Ça se dispute la deuxième partie. Philippe Guibert et Geoffroy Lejeune et des experts de l'ONU qui ont estimé que le peuple palestinien court, je cite, un grave risque de génocide. Les alliés d'Israël, toujours selon ces experts, portent également une responsabilité et doivent agir maintenant pour empêcher de prendre cette voie désastreuse. Ce sont des experts qui sont indépendants mais qui sont mandatés par le Conseil des droits de l'homme et qui ne parlent pas au nom de l'ONU. Réaction de Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique.
Est-ce que le mot génocide, selon vous, est un terme mesuré et responsable ?
Non, il ne me semble pas adapté. La position française, celle que le président de la République a toujours été extrêmement claire. Il faut dire les choses. Israël a le droit de se défendre. Israël a vécu les pires attentats terroristes d'un groupe, le Hamas, terroriste, qui est venu sur son sol, celui d'une démocratie, tuée, exterminée, justement là avec des intentions de faire disparaître une partie de la population parce qu'ils étaient juifs. Il faut dire les choses. Et la position de la France a toujours été claire. Israël a le droit de se défendre dans le cadre des règles internationales.
Ce sont des propos très forts et très directs. La première phrase, on a retenu celle-là, Philippe Guibert, au tout début. Ce ne sont pas des propos, génocide en tout cas n'est pas un terme adapté à la situation, quand il parle de Gaza, notamment.
Non seulement ils ne sont pas, le terme n'est pas du tout adapté, mais il est même détourné de son sens. Un génocide, c'est l'intention de vouloir exterminer une population. C'est ça le génocide. C'est pas être dans une guerre où on bombarde, où il y a, comme on dit pudiquement, des dommages collatéraux et des victimes civiles. On le sait tous. Non, un génocide, c'est une volonté d'exterminer une population. Il y en a eu un certain nombre dans l'histoire, en particulier la Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est très choquant dans l'usage de ce mot génocide, alors en particulier par les responsables, même s'ils ne parlent pas au nom de l'ONU, ils font partie des travaux d'une commission à l'ONU des droits de l'homme où l'Iran est présente. L'Iran qui a pendu 600 personnes cette année est donc présente dans une commission des droits de l'homme de l'ONU. C'est formidable, on vit une époque absolument formidable. Mais ce terme génocide est utilisé aussi par beaucoup de militants. Et ce qui me met très mal à l'aise, c'est que j'ai l'impression, mais je fais peut-être un procès d'intention, qu'en répétant que c'est un génocide que sont en train de commettre les Israéliens, on retourne le stigmate en disant « vous avez subi un génocide, donc vous êtes coupable d'un génocide ». Et ça me met extrêmement mal à l'aise. Parce que le terme génocide, ça ne correspond en rien à ce que fait Israël en Gaza, qu'on peut par ailleurs critiquer, qu'on peut discuter. Évidemment, la politique de l'armée israélienne et du gouvernement israélien. Mais ce n'est pas un génocide. Il y a 2,3 millions d'habitants à Gaza. à une population qui a d'ailleurs fortement augmenté sur les 10 dernières années. Et donc on ne sait pas combien il y a de morts civiles, parce que les chiffres du Hamas sont sujets à caution, mais on sait bien qu'il y a des victimes collatérales, c'est incontestable. Et donc il doit y avoir quelques milliers de morts civiles dans ces bombardements et dans cette offensive terrestre. Mais parler de génocide, ce n'est pas simplement que ce n'est pas adapté, c'est un contresens complet sur ce que c'est qu'un génocide.
Ouais, c'est peut-être...
Et je crains que ce contresens soit volontaire.
C'est peut-être une question aussi de sémantique ou d'interprétation. J'ai regardé la définition dans le Robert, génocide. Destruction méthodique d'un groupe humain.
Oui, c'est ça.
Voilà ce que dit le Robert. Oui. En effet, ça revient à ce que vous disiez, mais un groupe humain, ça peut être aussi, non pas forcément une population, ça peut être un groupe, le Hamas, avec les victimes collatérales. Et de fait, il peut y avoir
pas y avoir un génocide d'une organisation, c'est d'une population. Quand on est en guerre contre une organisation politico-militaire et même terroriste, comme c'est le cas du Hamas, le terme génocide, là, pour le coup, n'est
mais
pas
si
du tout
cela adapté. Englobe toute une population, et le Hamas serait d'ailleurs à l'origine de, alors je mets des guillemets, à l'origine aussi du génocide de la population de Gaza.
Pour le coup, je vais être très consensuel, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Philippe et avec votre conclusion. C'est-à-dire que, en fait.
C'est-à-dire qu'on peut parler de génocide, de fait, par effet de rebond. Mais pas de la part d'Israël, de la part du Hamas.
Il y a une crainte. C'est très intéressant. Il y a une crainte de disparition de la population. Mais je suis d'accord avec Philippe. Génocide, ce serait si Netanyahou avait dit au soir du 7 octobre, on va génocider Gaza parce qu'il y en a marre. En l'occurrence, c'est parce qu'il a dit. Ils ont dit, on va exterminer le Hamas. Donc, à partir de là, c'est pas comparable déjà pour commencer. Quelqu'un a utilisé cette comparaison, mais je pense qu'elle est justifiée. Churchill a bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale et Churchill a tué des civils. L'armée américaine a ravagé la Normandie au moment de la libération parce qu'il y avait la bataille de Normandie et qu'il fallait ouvrir des routes, enlever des garnisons allemands, etc. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de dégâts collatéraux. La Normandie ne s'en est d'ailleurs pas complètement remise. Donc c'est la guerre en réalité, c'est la guerre. Il y a des victimes des deux côtés. Et l'objectif du moment, c'est que le Hamas ait le plus de dégâts possible. Et là où vous avez raison, Lionel, enfin moi je suis d'accord avec la conclusion que vous avez donnée à Philippe, c'est que pourquoi les habitants de Gaza sont en danger aujourd'hui ? Parce que de fait, je pense que personne, y compris les plus pro-israéliens, les plus acharnés dans la volonté de riposte, etc., personne ne souhaite la disparition. J'ai pas entendu ça en tout cas des habitants de Gaza. Il y a bien des sûr. Chrétiens, c'est très complexe. C'est qu'en réalité, tout le monde sait que premièrement, la plupart veulent fuir et qu'ils en sont empêchés par le Hamas. C'est la première chose. Alors, ils n'ont pas beaucoup d'accueil à l'extérieur, mais c'est un autre sujet. L'Égypte a été assez mesurée sur le sujet, mais ils sont empêchés de partir par le Hamas. Deuxièmement, ils sont utilisés comme bouclier humain par le Hamas. C'est la raison pour laquelle ils veulent les garder.
Et Israël ne cesse de dire, pardonnez-moi, à la population gazaoui, quittez le nord, rejoignez le sud.
Exactement.
Voilà.
Donc en fait, moi, je suis d'accord avec... Voilà. Et je vais reprendre un terme de Philippe, mais la confusion, elle est volontaire, évidemment.
Ah, oui.
On est en train de découvrir en fait, qu'il y a une partie des élites, parce que on va dire que l'ONU fait partie des élites de l'Occident, en gros. Les experts de l'ONU entretiennent volontairement cette confusion. C'est drôle, d'ailleurs, le glissement qu'il y a eu dans l'opinion entre le 7 octobre au soir, où tout le monde a dit Israël doit se défendre, et ça doit être rapide, et ça doit être... ils doivent régler le problème, etc. Et là, on est 3 semaines après, et en fait, on parle de génocide. Gilles William Golnadel, il faut lui rendre cet hommage-là, a dit le soir même, a dit un jour, dans peu de temps, on va nazifier les Juifs. De fait, c'est ce qui s'est passé.
Et il faut préciser, je vous cède la parole, Philippe Guibert, que c'est le Hamas qui veut commettre un génocide à l'intention du peuple juif. Aussi. C'est écrit dans sa charte. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui veut commettre là un génocide avec la définition que vous avez très bien décrite tout à l'heure, c'est le Hamas.
Oui, mais... tout ça, c'est de la... Alors tu disais, c'est les élites occidentales, l'ONU. C'est plutôt les élites du Sud global, parce que l'ONU, au sein de l'ONU, ce sont les puissances émergentes qui sont numériquement les plus influentes. Et les dirigeants de l'ONU ou les responsables de l'ONU tiennent aussi un discours qui tient compte de ça. Et donc ils tiennent pas le discours occidental, précisément. Et que l'Occident est minoritaire sur la planète dans son attitude par rapport à ce conflit, et que le discours qui est tenu par l'ONU, je crains qu'il soit repris un peu partout dans le monde arabo-musulman et ailleurs. N'oublions pas que la Russie et la Chine n'ont pas condamné les attentats atroces du Hamas le 7 octobre. Ni la Russie ni la Chine ne les ont condamnés. Donc, après, le problème est que Israël et son armée est dans un piège, évidemment, et que s'ils veulent réussir leur opération, le temps leur est forcément compté. Pourquoi ils sont dans un piège? On est avec une organisation qui s'est mise sous terre. Et au-dessus, il y a des populations civiles qui, toutes, n'ont pas voulu ou n'ont pas pu partir vers le sud de Gaza, puisqu'on comprend bien que l'essentiel des combats a lieu à Gazaville et pas dans, beaucoup moins dans le sud de la bande de Gaza. Et donc le piège, c'est évident, c'est que vous voulez envoyer une bombe sur un souterrain pour détruire un souterrain, mais autour, il y a des civils. Voilà. Et donc il y a forcément des dommages collatéraux que le Hamas exagère certainement. Il y a pas mal d'experts militaires qui commencent à s'exprimer là-dessus en disant que les chiffres du Hamas ne sont pas cohérents avec les moyens militaires utilisés par Israël. Mais il y a indéniablement une crise humanitaire dans Gaza et des victimes civiles collatérales. C'est évident. Ouais. Et parce que c'est ça le piège pour Israël.
Avec la guerre de la communication, il y a notamment, vous l'avez vu passer sans doute, le site de l'AFP à Gaza qui a été touché par un bombardement. Et aussi bien le Hamas que l'armée israélienne se renvoient la balle, si je puis me permettre d'utiliser cette expression, pour finalement donner la paternité à l'un ou à l'autre de ces tirs de roquettes notamment. Geoffroy Lejeune, votre sentiment sur le positionnement de l'ONU en ce moment, par rapport à ce conflit et par rapport aux termes qui sont employés, notamment, on l'a dit tout à l'heure, l'ONU qui a demandé à la République islamique d'Iran, c'est ce que précisait Philippe tout à l'heure, de présider hier et aujourd'hui le forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ce n'est pas un peu gênant tout de même dans le contexte actuel, et puis l'Iran n'étant pas le parangon non plus des droits de l'homme véritablement, De lui accorder la présidence à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a pas une faute de goût, pour utiliser un euphémisme?
En fait, tout ce que vous dites est vrai, mais c'est gênant pour nous. Ce n'est pas gênant pour le reste du monde. En fait, Philippe a eu raison de me reprendre sur ce point. J'avais tort sur la notion d'Occident. En réalité, en fait, aujourd'hui, on réalise, mais d'ailleurs, tous les grands conflits nous le prouvent, que le monde ne pense pas comme nous. En réalité. Regardez sur la question de la Russie et de l'Ukraine. L'Occident, du coup, en tout cas, ce que nous, on représente, a pris parti tout de suite pour l'agresser. Contre l'agresseur, et il y a eu presque une forme de début de discussion sur les modèles de civilisation, etc., voulu par l'Ukraine démocratique voulant adhérer à l'OTAN et la Russie arriérée, rétrograde, qui lutte contre le wokisme et les droits LGBT. Et en fait, je pense que, enfin, en fait, Philippe a raison, on est aujourd'hui parfaitement isolé, en tout cas minoritaire, sur la scène mondiale. C'est ça qui se passe. Aujourd'hui, les sommets des BRICS ont plus d'importance que nos G20. C'est ça qui est en train de se passer.
Absolument.
Et ils ont plus d'importance en termes de poids économique, en termes en effet d'industrie de pays émergents, etc. Et en réalité, il faut qu'on arrive à se concevoir comme une civilisation minoritaire. Et donc dans la question de Israël-Palestine, Israël-Gaza, qu'est-ce que le monde a à faire de ce qu'on pense? Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite, qui a des moyens illimités, qui investit chez nous, qui organiserait la Coupe du Monde de football,
sans parler les Jeux Olympiques du Qatar,
sans parler du Qatar, l'Iran évidemment, l'Iran est reçu en grande pompe dans beaucoup d'endroits, pas chez nous, mais dans beaucoup d'endroits. La Chine, les valeurs de la Chine sont-elles les valeurs de la France ou de l'Union européenne? Pas du tout. Pas du tout. Et par ailleurs, la Chine ne se dérange pas pour venir infiltrer l'Union européenne économiquement, en respectant aucune de nos lois, aucune de nos réglementations, etc. En fait, aujourd'hui, on est vraiment victime de nos naïvetés. Je pense que l'abandon de la souveraineté, ça c'est là où on sera plus d'accord, je pense, mais l'abandon, l'abdication de la souveraineté, il y a quelques années, en pensant que globalement, nos valeurs avaient gagné, ouais. L'ONU s'est créée parce qu'on pense que tout le monde va être d'accord avec nous. C'est Fukuyama, c'est vraiment la fin de l'histoire. On va convertir le monde à nos idéaux démocratiques, enfin à tout ce que l'Occident a cru. La vérité, c'est que c'est Huntington qui a gagné avec le choc des civilisations. Il y a des civilisations, elles s'entrechoquent parfois, et on est en train de se prendre ça en pleine figure.
Un dernier mot de Philippe Guibert, et après je vous fais voyager pour terminer l'émission. Mais d'abord Philippe.
À Tahiti, par exemple.
Entre autres.
Non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. C'est-à-dire que on a cru que la globalisation économique et commerciale, la multiplication des échanges, allait transformer le monde en une vaste démocratie libérale comme nous. Or, c'est tout le contraire qui se passe. Il y a bien eu développement des échanges, d'ailleurs souvent au détriment des classes populaires en Occident, en Europe, qui ont été les victimes de ça. Mais il n'y a pas du tout eu d'évolution vers la démocratie libérale, c'est tout le contraire. C'est les autoritarismes sous diverses formes qui sont en train de gagner partout. Et donc oui, on est minoritaire. On est minoritaire à l'ONU et on est minoritaire sur la planète. Et donc, effectivement, on est dans une logique où nous, Nous sommes traumatisés par le totalitarisme du XXe siècle, la Shoah plus la Colima, les camps soviétiques, mais le reste du monde n'a pas du tout cette conscience-là. Et donc ils utilisent le terme génocide n'importe comment, de préférence contre Israël quand même, j'ai remarqué. Bizarre, hein ?
Absolument. Quelques minutes encore pour cette émission. Dans Ça se dispute, Anne Hidalgo, qui est partie visiter le site qui accueillera les épreuves de surf pour les Jeux Olympiques de 2024 en Polynésie. Ça ne se déroulera pas sur la Seine à Paris. Sauf que depuis le 22 octobre, la maire de Paris est restée dans le Pacifique Sud pour des vacances à titre privé. C'est un long déplacement qui fait polémique. Les détails avec Audrey Berthaud.
Un voyage qui ne passe pas inaperçu. La maire de Paris n'a pas été vue dans la capitale depuis presque 3 semaines. En cause, un voyage à Tahiti pour visiter le site qui accueillera les épreuves de surf des JO 2024. Un voyage aux nombreuses étapes. Anne Hidalgo a débuté par la Nouvelle-Calédonie, puis par l'île des Pins en compagnie d'une délégation de 6 personnes. Un déplacement intégralement pris en charge par la mairie selon Le Parisien. Le groupe aurait ensuite repris l'avion direction la Polynésie française pour visiter les sites olympiques. Mais son voyage ne s'arrête pas là. Anne Hidalgo a prolongé son déplacement dans les îles pour des vacances à titre privé à ses frais. L'entourage de la maire de Paris dénonce une polémique affligeante.
Je considère qu'elle a le droit de prendre des vacances.
Ce qu'on lui reproche, c'est finalement son voyage privé. L'opposition, je crois, parle de regroupement familial aux frais du contribuable. C'est vrai qu'elle a dû payer peut-être l'avion. Je crois que sa fille habite, selon les informations de nos confrères du Parisien, à 45 minutes de Tahiti. Mais voilà, le voyage est quand même payé par les impôts et surtout les impôts des Parisiens
d'abord, avec six collaborateurs. Pas en totalité. En l'occurrence, la partie du voyage qui était une partie de travail, elle oui, et c'est normal. Et l'autre partie, non.
Le vol retour de la mer aurait été financé par la ville, selon Le Parisien. Pour un vol Tahiti-Paris en classe affaires, il faut compter environ 5 000 euros. La droite parisienne dénonce entre autres le bilan carbone d'Anne Hidalgo.
Quand on donne à longueur de temps des leçons d'écologie, on ne multiplie pas les déplacements officiels.
Anne Hidalgo devrait être de retour ce week-end à Paris.
Et ce qu'il faut préciser, Geoffroy Lejeune, c'est que ce voyage officiel pour les Jeux Olympiques de 2024, donc en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, se déroulait du 16 au 21 octobre. Nous sommes le 3 novembre et Anne Hidalgo est toujours là-bas. Elle a droit à des vacances en effet, mais il se dit, petit rebondissement il y a quelques heures, qu'elle ne serait même pas allée sur le site où vont avoir lieu les épreuves de surf. Elle se serait fait représenter. Donc en fait, elle est là-bas pour de mauvaises raisons, ou pour de bonnes raisons, mais qui sont des raisons privées. Ça fait un peu désordre.
Écoutez, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. J'ai pas du tout envie de la défendre. Mais par contre, je vais en profiter pour dire ce que je pense de ces polémiques en général. Il y a sans doute beaucoup à dire, en effet, sur le fait qu'elle a un peu truandé, qu'elle s'est un peu servie de ce prétexte pour aller passer des vacances, etc. J'en ai aucun doute. Mais je ne veux pas devenir une démocratie suédoise où on renvoie une ministre parce qu'elle a pas payé, enfin parce qu'elle a payé une barre chocolatée avec les données de son ministère. Ce qui est arrivé Suède ou Danemark, mais je ne veux pas qu'on vive là-dedans. Je n'ai pas supporté qu'on se fasse voler. J'utilise vraiment le terme à dessein, une élection présidentielle, parce qu'on m'a reproché le mode de règlement, ou en tout cas le fait de s'être fait offrir des costumes par un candidat, en l'occurrence François Fillon. Je n'ai pas supporté ça. C'était tellement à des années-lumière des enjeux, ça a changé beaucoup de choses dans le pays. Ça a permis l'élection d'Emmanuel Macron.
Ah, si on se l'est fait voler, je ne sais pas si Fillon aurait gagné. Hein.
Bah, disons qu'avant l'histoire de
changer. Ça ne l'a pas aidé en tout cas.
Voilà.
Loin de là.
Puis bon, il était en tête avant, il est terminé troisième après. Je ne supporte pas, en fait. Je pense que moins il y a de politique, plus il y a de polémique sur ce genre de choses. Je pense que tout le monde se foutait de savoir comment Pompidou partait en vacances.
Oui.
Je pense que tout le monde se foutait de savoir comment le général de Gaulle, alors de fait, c'est vrai qu'il payait ses factures d'électricité, mais comment le général de Gaulle se faisait transporter à Colombelles les deux églises. À l'époque où la politique était puissante, où la France était dirigée, où les gens savaient où ils nous emmenaient, où ils nous emmenaient là où ils avaient dit qu'ils allaient nous emmener, ce genre de polémique n'existait pas. Et je trouve ça insupportable
que
la politique soit réduite à ça.
D'accord avec vous, mais Philippe Guibert, est-ce que c'est vraiment indispensable le séjour d'Anne Hidalgo pendant 3 semaines? Et il y a peut-être d'autres choses à faire à Paris, surtout en ce moment, en termes de sécurité pour.
Je vous laisse répondre, Philippe,
pour les deals.
Moi, moins elle est à Paris, mieux je me porte.
Non, d'accord. Faut savoir ce qu'on veut. Alors, qu'elle reste là-bas, alors, si c'est ce que vous préconisez, Geoffroy Lejeune. Philippe.
Il y a deux questions. Est-ce que son déplacement en tant que maire de Paris était justifié pour aller assister,
visiter le site où il va y avoir les épreuves de surf l'été prochain.
Est-ce que ça, c'est justifié ou pas ? J'ai pas la réponse à cette question. Et c'est à cette question qu'il faut.
Oui.
Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que la partie privée de son voyage, elle l'a payée elle-même ou pas ? D'après ce que nous dit son adjoint, elle l'a payée elle-même, donc on n'a rien à dire là-dessus. Voilà. Donc, en fait, la seule vraie question, si on veut aller au bout de... Je rentre dans la polémique. Hein. Oui. Je suis assez d'accord avec toi. Mais en rentrant dans la polémique, la seule vraie question, c'est est-ce que le voyage d'Anne Hidalgo à Tahiti était justifié au titre de ses fonctions dans le cadre de la préparation des JO ou pas ? C'est là-dessus qu'il faut qu'on nous réponde.
Avec les membres du CIO, elle
ou
fait
alors,
partie de
on peut avoir
l'organisation,
le sentiment...
donc ça peut se justifier. Mais
alors
aussi
si
longtemps...
ça peut se justifier, il n'y a pas de polémique. Si ça, c'est limite sur la justification... On peut accuser Anne Hidalgo d'avoir trouvé une opportunité de prolonger une mission officielle un peu limite pour aller retrouver sa fille, ce qui peut humainement se comprendre, puisqu'elle ne doit pas la voir très souvent, puisque sa fille habite à l'autre bout du monde. Voilà. Mais la seule question à laquelle il faut qu'elle réponde, c'est ça. Après, que quand vous êtes dans une mission officielle, ça m'est arrivé de le faire, et que vous prolongez deux jours, trois jours, parce que vous êtes dans un endroit où vous avez envie d'entrer, que vous payez ça avec vos propres deniers, il n'y a aucun sujet.
La visite officielle s'est terminée le 21 octobre. Hein.
Oui, mais elle a le droit de prendre une semaine de vacances.
Elle a le droit de prendre des vacances, bien sûr.
Bah oui.
Ah oui, absolument. Merci de nous avoir accompagnés, Philippe Guibert.
Merci à vous.
Le jeune. C'était un très bon 16 disputes, encore une fois, comme à chaque fois. Dans un instant, c'est Olivier de Kerenfleck avec Soir Info. Vous restez avec nous sur CNews. Bonne soirée.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.